Chapitre 5. Je passais peu de soirées dans la maison, car aussitôt que j'essayais de me livrer à une occupation quelconque dans mes appartements, la lumière de la lampe y attirait une nuée d'insupportables insectes, et la chaleur était trop forte pour demeurer les fenêtres fermées. Je passais les heures de nuit, ou sur l'eau, les clairs de lune de Venise sont célèbres, ou sur cette place splendide qui sert comme de cour d'honneur à l'étrange vieille basilique de Saint-Marc. Je m'asseyais au café Florian, savourant des glaces, écoutant la musique, causant avec quelques connaissances. Tout voyageur se rappelle l'immense amas de tables et de chaises qui avance comme un promontoire dans ce lac uni que représente la Piazza. Les soirs d'été, à la lueur des étoiles et de toutes ces lampes, avec le bruit des voix et des pas légers sur le marbre, seuls sont répercutés par les vastes arcades qui l'entourent, cette place est un salon de plein air consacré aux boissons fraîches et à la dégustation, plus délicate encore, des impressions magnifiques reçues le jour durant. Quand je ne préférais pas garder les miennes pour moi seul, il se trouvait toujours là quelques touristes de hasard, heureusement dépouillés de son Bettbecker, pour en entreprendre la discussion, ou quelques peintres naturalistes vénitiens, tout à la joie de voir revenir la saison aux effets puissants. La grande basilique avec ses dômes bas et ses broderies scintillantes, le mystère de sa mosaïque et de sa sculpture, semblait un fantôme dans la demi-obscurité, et la brise de mer nous venait à travers les colonnes jumelles de la piazzetta, linteau d'une porte qu'on ne gardait plus, aussi doucement que si une riche portière s'y fût balancée. À de tels moments, le souvenir des demoiselles Bordereau me venait quelquefois à l'esprit, avec un sentiment de pitié pour leur réclusion dans des appartements dont l'immensité vénitienne ne parvenait tout de même pas à les préserver d'une sensation de renfermé en ce juillet non moins vénitien. Leur vie semblait à mille lieues de celle de la piazza, et sans doute il était vraiment trop tard pour que l'austère Juliana changeât ses habitudes. Mais bien sûr, la pauvre Mistina aurait apprécié une glace de chez Florian. J'avais même eu l'idée de lui en apporter une. Heureusement, ma patience porta ses fruits, et je ne fus pas obligé de faire une chose si ridicule. Un soir, vers le milieu de juillet, je rentrais plus tôt que d'habitude, je ne me rappelle plus pour quelle raison, et au lieu de regagner mon logis, je me dirigeais vers le jardin. La température était très élevée. C'était une de ces nuits que l'on passerait volontiers tout entière dehors, et je n'étais nullement pressé d'aller me coucher. J'avais doucement flotté jusqu'à la maison, porté par ma gondole, écoutant les éclaboussements espacés des rames dans les étroits canaux sombres, et maintenant la seule idée qui me possédait était qu'il serait bon de s'étendre tout son long dans l'obscurité embaumée sur un banc du jardin. Sans doute l'odeur du canal était à la base de cette aspiration, et le souffle du jardin, lorsque j'y pénétrais, me confirma dans mon propos. Il était enivrant. Tel sans doute que celui qui tremblait aux aveux de Roméo, debout par les buissons fleuris et tendant les bras vers le balcon de sa maîtresse. Je levai les yeux vers les fenêtres du palais pour voir si par hasard l'exemple de Vérone, oh Vérone n'est pas loin, aurait été suivi, mais tout était noir comme d'habitude et tout était muet. Juliana peut-être aurait pu, aux nuits d'été de sa jeunesse, murmurer de sa fenêtre ouverte quelques paroles d'amour à Geoffrey Osborne. Mais Mistina n'était pas la maîtresse d'un poète, non plus que je n'étais poète. Je n'en fus pas moins satisfait lorsque j'aperçus, en arrivant au fond du jardin, ma plus jeune padrone assise sous l'un des berceaux. Au premier moment, je ne distinguais pas bien quelle était cette figure, ne m'attendant nullement à une avance de ce genre de la part d'aucune de mes hôtesses. Je dois même dire que la pensée qui se présenta la première fut quelque servante amoureuse s'était glissée là pour recouler avec son bien-aimé. J'allais me retourner pour ne pas l'effrayer, quand cette figure se dressa et je reconnus la nièce de Miss Bordereau. Je ne voulais pas l'effrayer, et bien que j'eusse tant désiré quelque incident de ce genre, j'étais capable de battre en retraite. J'avais l'air de lui avoir tendu un piège en rentrant plus tôt que d'habitude, et d'ajouter encore à cette anomalie l'invasion du jardin. Tout en se levant, elle m'adressa la parole, et je supposai alors que peut-être, se fiant à mon absence presque invétérée de chaque soir, elle avait adopté cette attitude, habitude de venir prendre l'air la nuit. Mais à parler vrai, il n'y avait pas de piège de ma part, car je n'en avais eu aucun soupçon. Tout d'abord, les mots qu'elle proférait me parurent exprimer que mon arrivée l'impatientait, mais, tandis qu'elle les répétait, je ne l'avais pas bien entendu, j'eus la surprise de lui entendre dire « Oh mon Dieu, que je suis contente que vous soyez venue !» Elle et sa tante possédaient en commun le don des phrases inattendues. Elle sortit du berceau comme pour se jeter dans mes bras. Je me hâte d'ajouter que j'esquivais une telle épreuve et que même à cette occasion, elle ne me tendit pas la main. Mais à présent, c'était pour elle un secours et elle me dit bientôt pourquoi. C'était parce que d'être seule dehors la nuit la rendait nerveuse. Les plantes et les massifs prenaient un aspect étrange et il y avait toutes sortes de bruits bizarres, elle aurait pu dire lesquels, comme des bruits d'animaux. Elle se tenait près de moi, jetant des regards autour d'elle avec une sécurité revenue, mais sans montrer qu'elle s'intéressât du tout à moi personnellement. Alors je me rendis compte combien pour les promenades nocturnes devait être dans ses habitudes, et je me souvins aussi... Oh, j'avais déjà eu le regret d'éprouver cette sensation en causant avec elle avant de devenir son hôte, qu'il était impossible de lui allouer trop de simplicité d'esprit. « Vous parlez comme si vous étiez perdu dans une forêt, » lui dis-je en riant d'un rire encourageant. « Comment vous pouvez résister au plaisir de descendre dans ce lieu charmant, à trois pas de votre chambre, est une chose qui me passe. » Vous vous cachez d'une manière surprenante, tant que je suis là, je le sais, mais j'espérais que vous sentiez un peu aux autres moments. Vous êtes, vous et votre pauvre tante, soumise à un régime plus austère que celui des carmélites dans leurs cellules. Auriez-vous la bonté de me dire comment vous faites pour vivre sans air, sans exercice, sans aucun contact avec les humains ? Je ne vois pas comment vous y prenez pour accomplir la tâche quotidienne de vivre. » Elle me regarda comme si je parlais une langue étrangère, et sa réponse en fut si peu une que je compris qu'elle était faite pour me contrarier. « Bon, nous nous couchons de très bonne heure, plutôt que vous ne sauriez croire. » Je fus sur le point de dire que ceci ne faisait qu'épaissir le mystère, mais... elle m'apporta quelques soulagements en ajoutant « Avant votre arrivée, nous n'étions pas si réservés, mais je ne sors jamais le soir. Jamais dans ces allées embaumées qui s'épanouissent là, sous votre nez ?»« Oh, » dit Mistina, « elle était guère agréable jusqu'ici. » Il y avait là plus de finesse et une comparaison flatteuse, de sorte qu'il me sembla que j'avais remporté un avantage. Comme il m'était loisible de le poursuivre en établissant un solide grief, je lui demandai pourquoi, puisqu'elle trouvait mon jardin agréable, elle ne m'avait jamais adressé aucun remerciement pour les fleurs que depuis 3 semaines j'envoyais en de telles quantités. Cela ne m'avait pas découragé. Comme elle avait pu l'observer, chaque jour apportait sa brassée. Mais j'avais été élevé selon les usages, et un mot de remerciement m'aurait touché à l'endroit sensible. Mais je ne savais pas qu'elles fussent pour moi. Elles vous sont destinées à toutes deux. Pourquoi ferais-je une différence entre vous ? Mistina se plongea dans ses réflexions, comme pour en tirer une raison à me donner, mais ne réussit pas à l'extraire. Au lieu de répondre, elle demanda brusquement « Mais pourquoi donc tenez-vous tant que cela à nous connaître ?»« Ah, ici, je me permettrai de faire une différence, reprit Clège. Cette question est de votre tante. Elle ne vient pas de vous. Mais vous ne me la poseriez pas si elle ne vous avait pas été soufflée. » « Non, elle ne m'a pas dit de vous interroger, » répliqua Mistina, nullement confuse. Elle était vraiment le plus singulier mélange de timidité et d'aplomb. « Enfin, elle s'est du moins montrée souvent étonnée à mon sujet, et vous a exprimé son étonnement. Elle a insisté là-dessus de telle sorte qu'elle vous a mis dans la tête que j'étais un individu odieusement familier. Je vous donne cependant ma parole que je me considère comme m'étant comporté très discrètement. » Faut-il que votre tante ait perdu tout usage du monde pour voir quelque chose d'anormal à ce que des gens honorables et intelligents, vivant sous le même toit, échangent de temps à autre quelques mots en passant? Quoi de plus naturel? Nous sommes compatriotes et nous avons au moins quelques goûts communs, puisque, comme vous, j'aime tellement Venise. Mon ami semblait incapable de saisir plus d'une proposition à la fois dans un discours, et elle répliqua rapidement, passionnément, comme résumant tout ce qu'il y avait à répondre à mon allocution. « Mais je n'aime pas Venise, le moins du monde. J'aimerais en être bien loin. » « Mais vous a-t-elle toujours enfermé autant ?» continuai-je pour lui montrer que je pouvais aussi bien qu'elle causer un bâton rompu. « C'est elle qui m'a dit de sortir ce soir. Elle me le dit souvent, » répondit Mistina. « Et moi, je ne voulais pas venir, je n'aime pas la quitter. » « Et est-elle aussi faible? Décline-t-elle vraiment ?» demandai-je avec plus d'émotion, je crois, que je n'aurais voulu en laisser paraître. Je m'en aperçus à la façon dont son regard se posa sur moi dans l'obscurité. Un peu embarrassé, je voulus détourner la conversation, et je continuai, prenant un ton de bon garçon. « Allons donc nous asseoir confortablement quelque part, et vous me raconterez toute son histoire. » Mistina ne fit aucune résistance. Nous trouvâmes un banc moins caché, d'aspect moins confidentiel, si je puis dire, que celui de la tonnelle, et nous y étions encore assis quand minuit sonna à ces cloches de Venise, dont les notes claires vibrent par-delà la lagune, avec une solennité qui n'appartient qu'à elle, et demeure dans l'air tellement plus longtemps que les sonneries des autres lieux. Nous passâmes ensemble plus d'une heure, et cette entrevue, je me rendis compte, avança beaucoup mon entreprise. Mistina avait accepté la situation sans protester. Elle m'avait évité pendant 3 mois. Cependant, elle me traitait maintenant presque comme si ces 3 mois eussent fait de moi un vieil ami. J'étais libre d'en conclure que, si elle m'avait évité, elle ne s'y était résolue du moins qu'après de longues réflexions. Ce soir-là, elle ne fit aucune attention au temps qui s'écoulait. Elle ne se tracassait nullement d'être tenue si longtemps éloignée de sa tante. Elle causait librement, répondant à mes questions et m'en posant d'autres. Elle ne profitait même pas des pauses inévitables, et plutôt prolongées, de la conversation pour me dire qu'il vaudrait peut-être mieux qu'elle rentrât. Elle avait l'air d'attendre quelque chose que j'aurais pu lui dire et vouloir m'en fournir l'occasion. Ceci me frappa d'autant plus qu'elle me raconta combien l'état de sa tante empirait depuis pas mal de temps déjà et d'une manière nouvelle. Sa faiblesse augmentait, à n'en pas douter. À certains moments, elle était absolument sans force. Cependant, plus que jamais, elle désirait rester seule. Voilà pourquoi elle lui avait dit de sortir, ne lui permettant même pas de se tenir dans sa propre chambre, parce que la sienne y était contiguë. Elle déclarait que la pauvre Mistina était pour elle un tourment, un ennui, une aggravation de ses maux. Elle demeurait immobile des heures entières, comme endormie. Elle avait l'habitude de vivre ainsi, rêvante et somnolente. Mais autrefois, elle donnait par éclair quelques signes de vie, d'intérêt aux choses. Elle aimait avoir sa compagne auprès d'elle avec son ouvrage. Cette triste créature me confia que l'immobilité de sa tante était telle à présent que par instant, elle donnait l'illusion de la mort. D'ailleurs, elle mangeait et buvait à peine. On se demandait de quoi elle vivait. Du moins, et c'était l'essentiel, elle se levait encore presque tous les jours. La grosse affaire était de l'habiller et de la rouler hors de sa chambre. Elle se cramponnait autant que possible à ses vieilles habitudes et avait toujours tenu à vivre dans le grand salon, bien que depuis plusieurs années, le nombre de ses relations fût bien diminué. Je me demandais ce qu'il fallait penser de tout cela. De cette soudaine conversion de Mistina à la sociabilité, et de cet étrange désir de la vieille femme d'être laissée de plus en plus seule à mesure qu'elle déclinait. Les faits ne concordaient guère. Mais je me demandais même s'il ne constituait pas un piège, s'il m'était compté afin de me faire découvrir mon jeu. Mais je n'aurais su dire pourquoi mes compagnes, que je ne pouvais appeler ainsi que par civilité, auraient nourri un tel projet, pourquoi elles auraient souhaité démasquer un pensionnaire si lucratif. À tout hasard, je restais sur mes gardes, afin que Mistina n'eût pas l'occasion de me demander de nouveau ce que je pouvais bien manigancer. Pauvre femme. Bien avant que nous nous séparions ce soir-là, mon esprit était au repos quant à ses propres manigances. Elle ne complotait rien du tout. Elle m'en raconta plus long sur leurs affaires que je n'avais osé espérer. Mais il n'y avait pas à la pousser, car rien que de sentir auprès d'elle de l'attention et de l'intérêt, ses épanchements coulaient de source. Elle cessa de s'étonner de ma manière amicale, et à la fin, pendant qu'elle me décrivait la vie brillante qu'elles avaient menée autrefois, cela devint presque du bavardage. C'était Mistina qui qualifiait cette vie de brillante. Elle me dit que lors de leur arrivée à Venise, il y avait de cela fort longtemps, je la trouvais remarquablement vague quant aux dates et à l'ordre dans lequel les événements s'étaient passés. Il ne se passait pas de semaine qu'elle ne reçût de visite ou ne fît quelque agréable passeggio en ville. Elles avaient vu toutes les curiosités. Elles avaient même été au Lido en bateau. Elles m'en parlaient comme si je croyais qu'il fût possible d'y aller à pied. Elles y avaient fait une collation apportée dans trois paniers qu'on avait ouverts sur l'herbe. Je lui demandais quelle personne elle fréquentait. Et elle dit « Oh, des gens très bien !» La cavaliere Bombici et la comtesse Altemura, qui étaient leur grande amie. Des Anglais aussi, les Charlton et les Goldie, et M. Stuck, qu'elles aimaient tant. Elle était morte et disparue, la pauvre amie. Il en était ainsi de la plupart des membres de leur aimable cercle. Cette expression fut celle de Mistina. Bien que quelques-uns leur demeurassent encore fidèles, ce qui était extraordinaire étant donné qu'elle les négligeait tant. Elle cita les noms de deux ou trois vieilles dames vénitiennes, d'un certain docteur plein de talent et si dévoué, qui venait chez elle en ami, il n'exerçait plus, de l'avvocato Pancintesta qui écrivait de beaux vers et en avait adressé à sa tante. Tous ces gens-là venaient les voir sans faute chaque année, généralement au Capodanno, et autrefois, sa tante leur offrait de petits présents, sa tante et elle de compagnie, de petites choses qu'elle, Mistina, faisait de ses mains, abat-jour en papier, dessous de carafe, ou ces choses en laine que l'on se met autour des poignets quand il fait très froid. Ces dernières années, on n'offrait plus guère de cadeaux. Elle ne trouvait rien de nouveau à faire, sa tante n'y portait plus d'intérêt, ne suggérait rien. Mais les gens venaient tout de même. Quand les bons Vénitiens vous ont une fois donné leur amitié, c'est pour toujours. Il y avait quelque chose de touchant dans la sincérité de ces esquisses de gloire mondaine maintenant éteintes. Le pique-nique au Lido lui avait laissé un souvenir éclatant à travers les âges. Et la pauvre Miss Tina était évidemment persuadée qu'elle avait eu une jeunesse tapageuse. De fait, elle n'avait eu un aperçu du monde vénitien tel qu'il se révèle dans ses allées et venues, ses bavardages, ses modestes réceptions locales. Car je remarquai pour la première fois combien elle s'était appropriée, par un contact prolongé, le parler familier au son doux et presque enfantin, le parler si caractéristique de Venise. Elle me parut comme imprégnée de ce dialecte invertébré, à la manière aisée et naturelle dont les noms des choses et des gens, purement locaux pour la plupart, lui venaient aux lèvres. Si ces noms lui représentaient peu de choses, le reste du monde lui représentait moins encore. Sa tante s'était peu à peu retirée en elle-même. Le déclin de son intérêt pour les abat-jour et les dessous de carafe l'indiquait assez. Il lui avait été impossible de se mêler au monde ou de recevoir seul, de sorte que ses souvenirs ne reflétaient qu'un monde presque aboli. Si son ton avait été la décence même, il vous aurait reporté à l'étrange Venise rococo des Goldoni et des Casanova. Je me surprenais aussi, pensant à elle, comme à l'une des contemporaines de Geoffrey Aspern. Cela venait sans doute de ce qu'elle avait si peu de traits communs avec les nôtres. Pourtant, je fis la réflexion qu'il était possible qu'elle n'eût jamais même entendu parler de lui. Il se pouvait fort bien que Juliana n'eût pas soulevé à ses yeux innocents le voile qui recouvrait le temple de sa gloire. En ce cas, elle ne serait pas au courant de l'existence des papiers. Et je me félicitais de cette hypothèse qui rendait mes relations avec elle plus aisées, jusqu'au moment où je me souvins que nous avions bien cru que la lettre de désaveu reçue par Kubner avait été écrite par la nièce. Si elle lui avait été dictée, il avait bien fallu qu'elle sût de quoi il s'agissait, bien que cette lettre fût écrite dans l'intention de répudier tout rapport avec le poète. En tout cas, je considérais comme probable que Miss Tina n'avait jamais lu une ligne de ses vers. Et de plus, si comme sa compagne, elle s'était constamment garée des enquêtes et des invasions, il y avait peu de chance que l'idée que des gens étaient après les papiers se fût logée dans sa tête. On ne pouvait être après puisqu'on n'en avait pas entendu parler. Le sondage manqué de Kubner avait été un accident unique. Quand minuit sonna, Miss Tina se leva, mais elle ne s'arrêta à la porte de la maison qu'après avoir fait avec moi deux ou trois tours de jardin. « Quand vous reverrai-je ?» lui demandai-je avant qu'elle rentrât. Ce à quoi elle répliqua promptement qu'elle aimerait bien revenir la nuit suivante. Elle ajouta néanmoins qu'elle ne viendrait point, elle était si loin de faire tout ce qui lui plaisait. « Ben, vous pourriez faire quelquefois ce qui me plaît ?» soupirai-je très sincèrement. « Oh, vous !» « Je ne vous crois pas, » murmura-t-elle en me regardant avec sa gravité simple. « Et pourquoi ne me croyez-vous pas ?»« Parce que je ne vous comprends pas. »« C'est dans ces cas-là qu'il faut montrer sa foi. » Je n'allais pas plus loin, bien que je l'eusse désiré, car je m'aperçus que je ne faisais que la mystifier. Et je ne désirais nullement charger ma conscience du plus léger soupçon de lui avoir fait la cour. Or, ce n'était rien moins que cela qui me menaçait si je continuais à supplier une dame une nuit d'été dans un jardin d'Italie de bien vouloir croire en moi. Il y avait du mérite à ce délicat scrupule, car Miss Tina s'attardait Je devinais en elle la conviction qu'elle ne redescendrait pas de si tôt, et le désir de faire durer le moment présent. Elle marquait aussi de l'insistance à maintenir notre conversation sur le terrain personnel. En somme, toute sa conduite ne pouvait être que celle d'une femme absolument dénuée d'artifice et presque aussi dénuée d'esprit. J'aimerais davantage les fleurs, maintenant que je sais qu'elles me sont aussi destinées. Mais comment avez-vous pu en douter? Si vous me dites quelles sont celles que vous préférez, j'en enverrai le double. Oh, je les préfère toutes. Puis elle continua familièrement. Vous mettrez-vous au travail, à lire, à écrire, quand vous serez remonté dans votre chambre? Oh, je ne le fais pas la nuit en cette saison. La lumière attire les insectes. Mais vous auriez pu savoir cela en vous installant. Oh, je le savais. Et l'hiver, travaillez-vous la nuit? Moi, je lis pas mal, mais je n'écris pas souvent. Elle écoutait comme si ces détails étaient d'un intérêt rare. Et subitement, une tentation irrésistible, absolument contraire à la prudence dont je m'étais cuirassé, surgit de son visage monotone et sans charme. Ah oui, elle était sûre, et je pouvais la rendre plus sûre encore. D'un moment à l'autre, mon impatience grandissait. Je ne pouvais plus attendre. Il me fallait absolument jeter un coup de sonde. Je continuais donc. Mais en général, avant de m'endormir, oh, c'est une mauvaise habitude, je le confesse. Je lis les grands poètes. 9 fois sur 10, je prends un volume de Jeffrey Aspar. Je l'observais bien, tandis que je proférais ce nom, mais je ne vis rien d'extraordinaire. Et pourquoi aurais-je rien vu? Jeffrey Aspar n'était-il pas la propriété du genre humain? Oh, nous le lisons aussi, nous l'avons lu, répondit-elle avec calme. « Oh, il est pour moi le poète des poètes, je le sais presque par cœur. » Mistina hésita un moment, puis sa sociabilité fut la plus forte. « Oh, par cœur, ce n'est rien !» Et elle s'irradia littéralement, bien que d'une lumière diffuse. « Ma tante le connaissait, elle le connaissait. » Ici, elle s'arrêta. Et je me demandais ce qui allait venir. Elle le connaissait en tant que visiteur. En tant que visiteur, je maîtrisais sévèrement ma voix. Oui, il venait la voir et l'emmenait promener. Je continuais à jouer l'étonnement. Chère madame, il est mort depuis un siècle. Eh bien, dit-elle drôlement. « Ma tante a 1 siècle et demi. »« Le bon Dieu nous bénisse, m'écriai-je. Que ne m'avez-vous dit cela plus tôt? Oh, j'aimerais tant lui en parler. »« Elle n'y tient pas. Elle ne vous dirait rien, » répliqua Mistina. « Cela m'est bien égal qu'elle n'y tienne pas. Il faut qu'elle m'en parle, c'est une occasion à ne pas perdre. »« Oh, vous auriez dû venir il y a 20 ans. » Alors elle parlait encore de lui. « Et que disait-elle ? » demandai-je ardemment. « Bon, je ne sais plus, qu'elle lui plaisait, qu'il l'aimait beaucoup. Et lui, ne lui plaisait-il pas ? Bon, elle disait que c'était un dieu. » Mistina me donna cette information platement, sans aucune expression. À son ton, ça aurait pu être quelque bavardage trivial. Mais je me sentis profondément remué, tandis qu'elle laissait tomber ses mots dans la nuit d'été. C'était comme le bruit léger des feuillets dépliés d'une vieille lettre d'amour. « eh bien, » murmurai-je, puis « Dites-moi, je vous prie, a-t-elle un portrait de lui ?» Ils sont d'une rareté désolante. Un portrait ou je ne sais pas, dit Mistina. Et maintenant, je lisais l'inquiétude sur ses traits. Allons, bonne nuit, ajouta-t-elle. Et elle rentra dans la maison. Je l'accompagnais dans la vaste et sombre entrée pavée de pierres qui, au rez-de-chaussée, correspondait à notre grande sala du premier. À l'une de ses extrémités, elle ouvrait sur le jardin, à l'autre sur le canal. Elle n'était actuellement éclairée que par la petite lampe que je prenais pour aller me coucher. Une bougie éteinte que Mistina avait évidemment apportée là était posée à côté sur la même table. Bonne nuit, répliquai-je. Je la suivis tandis qu'elle se dirigeait vers la table pour prendre sa lumière. Vous le sauriez sûrement si on avait un. Si elle avait quoi? Demanda la pauvre dame. Elle avait une drôle de façon de me regarder, éclairée d'en dessous par sa bougie. Bien, un portrait du Dieu. Je ne sais ce que je donnerais pour le voir. Je ne sais pas ce qu'elle a. Elle garde ses affaires sous clé. Et Mistina se dirigea vers l'escalier, évidemment avec l'impression d'en avoir trop dit. Je la laissais aller. Je ne voulais pas l'effrayer et je me contentais de remarquer que Miss Barlow n'aurait pas mis sous clé une si flatteuse possession que celle-là. Une chose dont tout le monde serait fier et que l'on mettrait bien en vue sur le panneau du salon. Il fallait donc certainement qu'elle n'eût pas de portrait. Mistina ne fit aucune réponse directe à ceci, et sa bougie à la main, elle me précéda dans l'escalier dont elle gravit 2 ou 3 degrés. Puis elle s'arrêta brusquement, se tourna vers moi, me regardant à travers la distance enténébrée qui nous séparait. Écrivez-vous? Écrivez-vous? Sa voix tremblait tellement qu'elle pouvait à peine articuler. Si j'écris, ne comparez pas un instant mes écrits avec ceux d'Asperne. Mais écrivez-vous sur lui, travaillez-vous sur sa vie. Ah, voilà une question de votre tante. Elle ne vient pas de vous, dis-je avec l'intonation d'une sensibilité légèrement blessée. Raison de plus pour que vous y répondiez. Le faites-vous, je vous prie. Je me croyais décidé au mensonge, mais je découvris que, mis au pied du mur, je ne l'étais point. D'ailleurs, maintenant que je tenais une entrée en matière, il y avait comme un soulagement à être franc. Et enfin, oh, c'était pure imagination, peut-être même de la fatuité, je me sentais sûr que Mistinard, en dernier ressort, n'en serait pas moins mon ami. De sorte que je répondis, après un moment d'hésitation, Oui, j'ai écrit sur lui, et je suis à la recherche de nouveaux documents. Oh, nom du ciel, en avez-vous? Santo Dio! S'écria-t-elle sans écouter la question. Elle se mit à grimper rapidement l'escalier et fut bientôt hors de vue. En dernier ressort, je pouvais peut-être compter sur elle, mais pour le présent, visiblement, elle était effrayée. La preuve en fut qu'elle se cacha de nouveau, et pendant une quinzaine de jours, elle m'échappa complètement. Ma patience s'épuisa, et 4 ou 5 jours plus tard, je dis au jardinier de cesser l'envoi de mes hommages fleuris. Chapitre 6. Un après-midi, enfin, comme je descendais de mes appartements pour sortir, je la trouvais dans la salle là. Depuis mon entrée dans la maison, c'était notre première rencontre sur ce terrain. Elle n'affecta pas d'être là par hasard. Son honnête et fruste gaucherie ignorait les artifices. Afin que je fusse bien sûr qu'elle m'attendait, elle me l'annonça immédiatement, mais en ajoutant que Miss Bordereau désirait me voir. Elle me mènerait auprès d'elle tout de suite si j'en avais le temps. Eussé-je été en retard pour un rendez-vous d'amour, je serais demeuré pour cette visite, et j'exprimais sur-le-champ tout le plaisir que je prendrais à me mettre au pied de ma bienfaitrice. Elle désire causer avec vous, vous connaître, dit Mistina, souriant comme si elle approuvait cette idée, et elle me conduisit à la porte de l'appartement de sa tante. Je l'arrêtai un moment avant qu'elle l'ouvrit, la regardant avec curiosité. Je lui dis que c'était pour moi une grande satisfaction et un grand honneur. Mais tout de même, j'aimerais bien savoir ce qui avait pu changer Miss Montreux à un tel point. C'était seulement l'autre jour qu'elle ne voulait pas me souffrir près d'elle. Mistina ne fut pas embarrassée par mes questions. Elle apportait la même aisance dans des explications sereines et inattendues, assez plausibles d'ailleurs, que dans de petites faussetés. Mais ce qui était vraiment étrange, c'est que tout cela prenait sa source dans la sincérité. « Oh, ma tante varie, répondit-elle, sa vie est tellement ennuyeuse. Je pense qu'elle en est fatiguée. Mais vous disiez qu'elle demandait de plus en plus à être laissée seule. » La pauvre Mistina rougit comme si j'eusse été indiscret. Eh bien, si vous voulez pas croire qu'elle désire vous voir, je l'ai pourtant pas inventé. Je crois qu'on devient capricieux en vieillissant. Oui, c'est parfaitement vrai. Je voulais seulement savoir si vous lui avez répété ce que je vous ai dit l'autre soir. Ce que vous m'avez dit. Oui, à propos de Jeffrey Aspern, que je suis à la recherche de documents. Mais si je lui avais dit, croyez-vous qu'elle vous aurait fait demander ? Ben, c'est justement ce que je désire savoir. Si elle veut le conserver pour elle toute seule, elle peut désirer me faire venir afin de me le dire. « On ne parlera pas de lui, » dit Mistina. Puis ouvrant la porte, elle ajouta plus bas, « Je ne lui ai rien dit. » La vieille femme était assise au même endroit où je l'avais vue la dernière fois, dans la même position, avec le même bandeau mystificateur sur les yeux. Sa bienvenue consista à tourner vers moi son visage presque invisible et me prouver que, tout en demeurant silencieuse, elle me voyait parfaitement. Je ne fis pas un mouvement pour lui serrer la main, je ne sentais que trop que c'était une chose réglée pour toujours. On m'avait suffisamment fait comprendre qu'elle était trop sacrée pour ses modernités triviales, trop vénérable pour être touchée. Il y avait quelque chose de si sarcastique dans son aspect, c'était dû en partie à sa visière verte, tandis que je me tenais devant elle, soumise à son examen, que je cessais subitement de douter qu'elle me soupçonnât, bien que je ne soupçonnasse pas moi-même un instant Mistina de m'avoir pas dit la vérité. Elle ne m'avait pas trahi, mais l'instinct secret de la vieille femme l'avait bien servi. Elle m'avait retourné sous toutes les faces pendant ces longues heures solitaires et avait deviné. Et le pire de l'affaire, c'est qu'elle me semblait être de ces vieilles femmes capables, telles sardanapales aux abois, de brûler leurs trésors. Mistina avança une chaise en me disant « Vous serez bien là ». Tout en prenant possession, je m'informai de la santé de Miss Brotherhaw. J'ai exprimé l'espoir qu'en dépit de la grande chaleur, elle était satisfaisante. Elle répondit qu'elle était assez bonne, que c'était déjà beaucoup de vivre. « Oh, quant à cela, cela dépend du terme de comparaison, » répondis-je en riant. « Mais je ne compare pas, oh, si je comparais, j'aurais renoncé à tout depuis longtemps. » Il me plut de prendre ceci pour une allusion subtile à l'ivresse qu'elle avait goûtée dans la société de Jeffrey Aspern. Bien qu'à dire vrai, une telle allusion s'accorda mal avec ce désir que je lui imputais de le garder enseveli au fond de son cœur. Mais cela s'accordait, du moins, avec ma constante conviction que nul être humain n'avait possédé au même degré que lui l'heureux don de la joie de vivre. Et ce que cette phrase voulait faire comprendre était que rien dans le monde auprès de cela ne valait la peine d'être nommé, si l'on prétendait y faire allusion. Mais on ne prétendait rien de pareil. Mistina s'était assise auprès de sa tante avec l'air de quelqu'un s'attendant à ce qu'une merveilleuse conversation s'établisse entre nous. C'est à propos de ces magnifiques fleurs, dit la vieille dame. Vous nous en avez tant envoyé, j'aurais dû vous en remercier plus tôt, mais je n'écris jamais et je ne reçois que très rarement. Elle ne m'avait pas remercié tant que les fleurs avaient continué à lui arriver, mais elle se départissait de ses habitudes, au point de m'envoyer chercher quand elle commençait de craindre de n'en plus recevoir. Je pris bonne note de cela. Je me souvins de l'espèce d'avidité qu'elle avait montrée quand il s'était agi de m'extraire mon or, et je me réjouis intérieurement de l'heureuse idée que j'avais eue de suspendre mes hommages. Il lui manquait, et elle était prête à une concession qui les lui ramènerait de nouveau. Au premier signe qui me fut donné de cette concession, je lui épargnai la moitié du chemin. Oh, je crains que vous n'en ayez guère reçu dernièrement, mais elles vont apparaître de nouveau, tout de suite demain ou ce soir.
Oh, envoyez-en les ce soir, s'écria Mistina, comme s'il s'agissait d'une affaire d'importance.
Qu'avez-vous de mieux à en faire? Ce n'est pas un goût mal de faire de sa chambre un bosquet, remarqua la vieille femme.
Oh, je ne fais pas de ma chambre un bosquet, mais j'adore faire pousser des fleurs et les étudier. Il n'y a rien là qui soit digne d'un homme. Cela a été l'amusement de philosophes, d'hommes d'État dans leur retraite. Je crois même de grands capitaines.
Mais je pense que vous savez que vous pourriez les vendre, celles dont vous n'avez pas d'emploi, continua Miss Barlow. On vous en donnerait pas cher, tout de même, vous pourriez faire une affaire.
Oh, de ma vie, je n'ai fait une affaire, comme vous avez dû vous en apercevoir. Mon jardinier en dispose à son gré, et je ne lui adresse pas de questions à ce sujet.
Mais je lui en adresserai quelques-unes, je vous en réponds, dit Miss Barlow. Et j'entendis pour la première fois son étrange rire. C'était comme si le léger fantôme de sa voix de jadis subsistait au pas de promenade de ses apparitions, un rond de jambes imprévu. Je ne pouvais m'habituer à cette idée que la vision d'un profit pécuniaire était ce qui animait le plus la divine Juliana.
Mais venez au jardin vous-même et cueillez-les. Venez aussi souvent que vous voudrez. Venez tous les jours, poursuivis-je, me tournant vers Mistina. Les fleurs sont toutes pour vous. J'avais pris le ton de la plaisanterie pour faire passer cette très sincère déclaration. Mais je ne peux pas comprendre pourquoi elle n'y descend pas, ajoutai-je. Et ceci était à l'adresse de Miss Barlow.
Ben, il faut que vous l'y fassiez venir, il faut monter la chercher, dit la vieille à ma profonde stupéfaction. Cette drôle de machine que vous avez fait faire dans le coin lui sera très commode pour s'asseoir.
Cette allusion au plus soigné, au plus étudié de mes bosquets ombreux, une esquisse de pavillon de repos digne de servir de modèle à un peintre, était vraiment irrévérente. Elle me confirma dans mon impression qu'il y avait un soupçon d'impertinence dans le langage de Miss Barlow, un vague écho de la hardiesse ou de la mutinerie de sa jeunesse aventureuse, qui avait en quelque sorte automatiquement survécu à ses passions et à ses facultés. Je demandai néanmoins, « Mais ne vous serait-il pas possible d'y descendre vous-même ? Ne serait-ce pas bon pour vous de vous asseoir un peu à l'ombre dans cet air embaumé ?»«
Ah, monsieur, quand je quitterai cette chambre, ce ne sera pas pour prendre l'air, et je crains que celui qui m'environnera alors ne soit pas particulièrement embaumé. L'ombre que je goûterai sera réellement profonde, oh, cela oui, mais ce ne sera pas encore tout de suite, » continua Miss Bordereau sarcastiquement, comme pour anéantir l'espoir que le regard familier
jeté sur le dernier réceptacle de ses restes mortels, il put faire en être en moi. Me suis assise là dehors bien des fois, et j'ai eu tout ce qu'il me fallait de bosquet dans mon temps. Maintenant, j'attends mon tour sans crainte. Mistina, ainsi que je l'avais pensé, comptait bien sur une conversation remarquable, mais peut-être la trouvait-elle moins agréable du côté de sa tante qu'elle n'était en droit d'espérer, étant donné qu'elle m'avait envoyé chercher dans une intention civile. Pour modifier la situation et mettre notre compagne dans un jour plus favorable, elle me dit « Mais ne vous ai-je pas assuré l'autre soir qu'elle m'avait envoyé au jardin ? Vous voyez que je fais les choses qui me sont agréables. » Vous la plaignez, vous lui enseignez à se plaindre, demanda Miss Bordereau avant que j'eusse le temps de répondre. Elle a une vie plus facile que je l'avais à son âge. Ah, vous oubliez, dis-je, que les circonstances me permettent de vous traiter d'inhumaine. Inhumaine? Oh, c'est ce que les poètes disaient des femmes il y a 100 ans. Ne vous y risquez pas, vous ne feriez pas aussi bien qu'eux, poursuivit Juliana. Il y a plus de poésie dans ce monde, du moins pas à ma connaissance, mais je veux pas badiner avec vous, dit-elle. Et je me souviens du ton affecté et démodé qu'elle donna à ces mots. Vous me faites parler, vous me faites parler, c'est pas bon du tout pour moi. En entendant ceci, je me levai et lui déclarai que je n'abuserais pas davantage de son temps. Mais elle me retint pour me poser une question. Vous rappelez-vous que le jour où je vous ai mis vie à propos des chambres, vous vous aviez offert de nous servir de notre gondole? Et quand j'eus promptement acquiescé, frappé de nouveau de ses dispositions à faire de mon séjour chez elle une bonne affaire, et me demandait ce qu'elle pouvait bien avoir maintenant en tête, elle me sortit. « Et pourquoi n'y emmenez-vous pas cette petite pour lui montrer la ville ?»« Oh, ma chère tante, que me voulez-vous ? » s'écria la petite, en balbutiant pitoyablement. « Je connais la ville par cœur. »« Eh bien, alors allez avec lui et expliquez-lui les choses, » dit Miss Bordereau, qui était presque cruelle dans son implacable don de répartie. Elle se révélait une sarcastique vieille femme, railleuse et cynique. N'avons-nous pas entendu dire qu'il y avait eu toutes sortes de changements depuis quelques années? Vous devriez aller les voir, et à votre âge, oh, ce n'est pas que je veuille dire que vous soyez tellement jeune, mais il faut saisir les occasions qui se présentent. Vous êtes d'âge, ma chère, à ce que ce monsieur ne vous fasse pas peur. Il vous montrera les célèbres couchers de soleil, s'il y en a encore. Y en a-t-il encore? Le soleil s'est couché pour moi, oh, il y a longtemps, mais ce n'est pas une raison. D'ailleurs, vous ne me manquerez pas. Vous vous croyez trop importante. Menez-la à la piazza. C'était si joli autrefois, continua Miss Bordereau s'adressant à moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de la drôle de vieille église? J'espère qu'elle n'est pas en ruine. Que la petite regarde les boutiques, qu'elle prenne de l'argent, qu'elle s'achète ce qui lui plaira. La pauvre Miss Tina s'était levée déconcertée et sans défense. Et à nous voir tous deux debout devant sa tante, un spectateur de cette scène aurait certainement pensé que notre vénérable amie se moquait royalement de nous. Mistina protestait dans un murmure confus d'exclamations inachevées, mais je ne perdis pas de temps à déclarer que, si elle daignait me faire l'honneur d'accepter l'hospitalité de ma gondole, je pourrais m'engager à ce qu'elle ne s'ennuyât point. Ou bien, si ma présence était de trop, le bateau avec le gondolier était à son service. Il était une rame de première force et elle pouvait avoir toute confiance. Mistina, sans donner une réponse définitive à ce discours, regardait par la fenêtre en se détournant de moi, prête à pleurer. Je déclarai alors que du moment que Miss Marlowe approuvait la chose, nous nous entendrions facilement. Nous arrêterions une heure à son choix, l'un de ses très prochains jours. Puis, présentant mes hommages à la vieille dame, je lui demandai si elle aurait la bonté de me permettre de revenir. Elle me tint un moment en suspens, puis elle dit « Est-ce très nécessaire à votre bonheur ?»« Ben, cela me plaît plus que je ne saurais dire. »« Mais vous êtes incroyablement poli. »« Vous ne voyez pas que cela me tue à peu près ?»« Mais comment puis-je croire une chose pareille ?» Quand je vous vois plus animée, plus brillante qu'à mon entrée. Mais c'est très vrai, tante, dit Mistina. Je crois que cela vous fait du bien. N'est-ce pas touchant, cette sollicitude que chacune de vous montre pour le plaisir de l'autre, ricana Miss Bordereau. Si vous me trouvez brillante aujourd'hui, cela prouve que vous savez de quoi vous parlez. Vous n'avez jamais vu une femme agréable. Et qu'est-ce que vous connaissez en fait de grand monde, vous autres ? S'écria-t-elle. Mais avant que je puisse le lui dire, n'essayez pas de me faire un compliment. J'ai été gâtée là-dessus, continua-t-elle. Ma porte est fermée à tout le monde. Mais vous y pouvez y frapper quelquefois. Avec ces mots, elle me congédia et je quittai la chambre. Le loquet retomba derrière moi, mais Mistina, contrairement à ce que j'espérais, resta à l'intérieur. Je traversai lentement la grande salle et avant de descendre, j'attendis un peu. Mon espoir fut rempli. Une minute plus tard, mon introductrice me suivait. « Mais c'est une excellente idée que ça de la piazza, dis-je. Quand voulez-vous y aller, ce soir, demain ?» Elle était désemparée, ainsi que je l'ai déjà dit. Mais j'avais déjà observé, et je devais l'observer encore, que quand Mistina était embarrassée, elle ne se détournait pas en hésitant et en s'interrompant, comme la plupart des femmes, mais s'approchait plutôt avec une espèce d'appel suppliant et enveloppant pour être épargnée et protégée. Ses attitudes étaient une prière constante, implorant à la fois une aide et une explication, et cependant nulle femme au monde ne fut jamais moins comédienne. À partir du moment où lui aviez montré quelque bonté, elle s'abandonnait à vous complètement. Sa réserve tombait, et elle considérait comme acquise la plus extrême intimité, c'est-à-dire cette innocente intimité qui était la seule qu'elle pût concevoir. Elle me déclara qu'elle ne savait ce qui avait pris à sa tante, qui avait changé si rapidement, qui avait certainement quelque idée derrière la tête. Je lui répondis qu'il fallait capter cette idée, me la donner. Nous irions ensemble prendre une glace chez Florian, et elle me raconterait sa découverte, tout en écoutant l'orchestre. Ouf, il me faudra beaucoup de temps pour la découverte, dit-elle avec une certaine mélancolie. Et elle ne put me promettre cette satisfaction, ni pour ce soir, ni pour le lendemain. Mais je pouvais maintenant me montrer patient, car je sentais qu'il n'y avait plus qu'à attendre, et de fait, à la fin de la semaine, par un temps merveilleux, après le dîner, elle entrait dans ma gondole à laquelle, en l'honneur de cette occasion, j'avais attaché un second rameur. En 5 minutes, nous avions volé jusqu'au grand canal, dont la vue lui arracha un murmure d'extase aussi naïf que s'il eût été un touriste fraîchement débarqué. Elle avait oublié la splendeur de ce grand chemin d'eau par les nuits claires de l'été, et combien la sensation de flotter, pour ainsi dire, entre les marbres des palais et les reflets des lumières dispose l'esprit à l'aisance et à la liberté. Nous flottâmes loin et longtemps, et bien que mon ami n'exprima pas sa joie par des exclamations stridentes, j'étais certain que je l'avais entièrement conquise. Elle était plus que contente, elle était transportée. C'était pour elle une complète libération. La gondole n'avançait que lentement pour lui laisser le temps d'en jouir, et elle écoutait les rames frapper l'eau, plus fort et plus musicalement quand nous passions dans les canaux étroits, comme si elle avait pour la première fois la révélation de Venise. Quand je lui demandai combien il y avait de temps qu'elle n'avait ainsi navigué, elle répondit « Oh, je ne sais pas, bien longtemps, pas depuis que ma tante est malade. » Une fois de plus se révélait ce vague extrême qui enveloppait les années précédentes et le moment précis où avait cessé la période de notoriété de Miss Bordereau. Je ne pouvais faire durer la soirée bien tard, mais nous fîmes un giro considérable avant d'aborder à la piazza. Je me gardais de lui poser aucune question sur sa vie familière et tout ce que je désirais savoir. Au contraire, je lui versais mes trésors d'informations sur les choses qui nous entouraient, lui décrivant en même temps Florence et Rome, discourant sur les charmes et les avantages des voyages. Elle s'appuyait, attentive et douce, sur les épais coussins du cuir, tournait consciencieusement les yeux là où je lui signalais quelque chose, et ne jugea à propos que plus tard de m'apprendre qu'il se pouvait qu'elle connût Florence mieux que moi, et ayant vécu plusieurs années avec sa vieille parente. Elle finit par dire avec l'impatience timide d'un enfant « Est-ce que nous n'irons pas à la piazza? C'est cela que je voudrais voir. » Je donnai immédiatement l'ordre d'y aller tout droit, et nous restâmes silencieux dans l'attente de l'arrivée. Cependant, quelque temps se passa, et elle reprit de son propre mouvement. « J'ai trouvé ce qu'a ma tante. Elle craint que vous ne vous en alliez. » Je suffoquai. « Mais qu'est-ce qui a pu lui mettre cela dans la tête ?»« Elle a comme l'idée que vous ne vous plaisez pas à la maison. C'est pour cela qu'elle a changé de manière d'être. » Vous voulez dire qu'elle désire que je m'y plaise davantage? Enfin, elle désire que vous ne vous en alliez pas. Elle désire que vous restiez. À cause de ce que je paye, je suppose, remarquai-je avec candeur. La candeur de Mistina fut à la hauteur. Oui, bien sûr, pour que j'aie davantage. Et combien désire-t-elle que vous ayez? Demandai-je, laissant libre cours à la gaieté qui finissait par me gagner. Elle devrait fixer la somme afin que je reste jusqu'à ce qu'elle soit atteinte. Oh, cela ne me plairait pas, dit Mistina. C'est une chose qui ne serait jamais vue de prendre une peine pareille. Mais supposez que j'ai mes propres raisons pour désirer rester à Venise. Alors, il vaudrait mieux que vous alliez habiter une autre maison. Et qu'est-ce que votre tante dirait de cela? Oh, elle n'aimerait pas cela du tout. Mais je crois que vous feriez bien de renoncer à vos raisons et de vous en aller pour tout de bon. Chère Mistina, dis-je, il ne m'est pas si facile de renoncer à mes raisons. Sa réponse ne fut pas immédiate. Mais après un moment, elle reprit de nouveau. Je crois que je connais vos raisons. Bon, c'est bien possible, puisque l'autre soir, je vous ai dit combien je désirais que vous m'aidiez à atteindre mon but. Mais je ne puis faire cela sans tromper ma tante. Mais que voulez-vous dire par la tromper? Que jamais elle ne consentira à ce que vous désirez. On le lui a déjà demandé, on lui a écrit. Cela la fâche horriblement. Alors, elle a réellement des documents de valeur? M'écriai-je précipitamment.
Oh, elle a tout, soupira Mistina, avec une lassitude bizarre, un soudain envahissement de profonde tristesse. À ces mots, je sentis mon pouls s'accélérer, car il fournissait une preuve précieuse à mes yeux. Mon émotion était trop profonde pour me permettre de parler, et dans le silence qui s'ensuivit, la gondole aborda la piazzetta. Après avoir mis pied à terre, je demandai à ma compagne si elle préférait faire le tour de la place ou aller s'asseoir devant le grand café. À quoi elle répondit qu'elle ferait ce qui me plairait le mieux. Il fallait seulement se souvenir que nous n'avions que peu de temps à nous. Je l'assurai qu'il y en avait assez largement pour exécuter tout le programme et nous entreprîmes le tour des longues arcades. Ses esprits lui revinrent à la vue des boutiques étincelantes. Elle s'y arrêtait, s'y attardait, admirant ou critiquant leurs étalages, me demandant ce que j'en pensais et discutant les prix. Mon attention était ailleurs. Ses paroles de tout à l'heure, « Oh, elle a tout !» se répétaient dans mon esprit en écho prolongé. Nous finîmes par nous asseoir au milieu de la foule pressée du café Florian, ayant trouvé une table inoccupée parmi celles qui étaient rangées sur la place. La nuit était splendide et tout le monde dehors. Mistina n'aurait pu souhaiter opérer son retour à la vie mondaine sous de meilleurs auspices. Je voyais bien qu'elle le sentait plus encore qu'elle ne le disait, mais ses impressions étaient presque trop violentes pour elle. Elle avait oublié les attractions de ce monde et s'apercevait qu'elle en avait été sevrée sans pitié pendant les plus belles années de sa vie. Ceci ne l'irritait point, mais, tandis qu'elle contemplait le charmant spectacle, son visage, en dépit de son sourire approbateur, rougissait de surprise blessée. Elle ne disait mot, plongée dans le regret des occasions à jamais perdues, qui se seraient si aisément présentées à elle, et cela me permit de lui demander « Vouliez-vous tout à l'heure me faire entendre que votre tante m'admet de temps à autre chez elle avec l'idée que cela me fera prolonger mon séjour ?»« Oui, elle croit que vos impressions se modifieront si vous la voyez quelquefois. Elle désire tellement que vous restiez qu'elle est prête à faire cette concession. » Et en quoi, d'après elle, mes impressions pourraient-elles se modifier si je la revois? Je ne sais pas, elle est peut-être intéressante, dit Mistina avec simplicité. Vous le lui avez dit? C'est vrai, mais ce n'est pas la vie de tout le monde. Non, évidemment, si l'on plus de personnes tenteraient de venir. Eh bien, si elle est capable de faire cette réflexion, elle est capable de faire celle-ci, continuai-je. C'est qu'il faut que j'aie une raison particulière pour ne pas agir comme tout le monde, en dépit de l'intérêt qu'elle offre en ne l'abandonnant pas elle-même. Mais Tina ne sembla pas saisir le sens de cette phrase plutôt compliquée. Je poursuivis donc. Si vous ne lui avez pas raconté ce que je vous ai dit l'autre soir, peut-elle du moins l'avoir deviné? Je ne sais pas, elle est très soupçonneuse. Mais ce ne sont pas des curiosités indiscrètes, des persécutions qui sont en cause. Non, non, ce n'est pas cela, dit Mistina en tournant vers moi un visage troublé. Je ne sais comment dire, c'est par rapport à quelque chose dans sa vie, il y a des siècles, avant ma naissance. Quelque chose, mais quelle espèce de chose? Oh, je posais la question comme si je ne pouvais avoir aucune idée de cette chose. Oh, elle ne me l'a jamais dit. Et ici, j'étais certain que mon ami disait vrai. Son extrême limpidité était presque exaspérante, et je pensais, l'espace de moment, qu'elle aurait été d'un commerce plus agréable en étant moins ingénue. Supposez-vous que cette chose ait un rapport avec les lettres et les papiers de Jeffrey Osborne? Enfin, je veux dire, ses affaires qui sont en sa possession.
Oh, je le croirais volontiers, s'écria ma compagne, comme si je venais de lancer une heureuse hypothèse. Je n'ai jamais jeté un coup d'œil sur ses affaires.
Sur aucune, alors comment savez-vous qu'elles sont?
Je ne le sais pas, dit Miss Tina placidement. Je ne les ai jamais tenues dans mes mains. Mais je les ai vues quand elle les sort.
Ah, et est-ce qu'elle les sort souvent?
Oh, pas maintenant, mais autrefois. Elle y tient beaucoup.
En dépit de leur caractère compromettant?
Compromettant, répéta Miss Tina, comme si elle cherchait quel sens à donner à ce mot.
Je me sentais presque dans l'état d'âme d'un corrupteur de l'innocence. Oui, je fais allusion aux pénibles souvenirs qu'elles peuvent contenir.
Oh, je ne crois pas qu'il y ait là rien de pénible.
Vous voulez dire qu'il n'y a rien qui puisse nuire à sa réputation?
Assez beau, une expression plus bizarre encore que d'habitude parut sur le visage de la nièce de Miss Bordereau, comme un aveu de sa faiblesse, une supplication d'agir honnêtement, généreusement envers elle. Je l'avais amenée à la piazza, je la soumettais aux plus douces influences, je l'entourais d'attention auxquelles elle était sensible, et maintenant je semblais avoir machiné tout cela pour la corrompre à mon profit, aux dépens de sa tante. Il était dans sa nature de céder, et elle était capable de presque tout faire pour plaire à quelqu'un qui lui donnait une marque certaine de sa bonté. Mais la marque la plus grande qu'on pouvait lui donner était de ne pas trop exiger de reconnaissance. C'était assez curieux, j'y réfléchis plus tard, qu'elle ne m'en voulut pas le moins du monde de mon manque de considération pour la réputation de sa tante, ce qui aurait été cependant du plus mauvais goût de ma part, si un intérêt moins vital, à mon point de vue, n'eût été en jeu. Je ne crois pas qu'elle se rendit réellement compte.
Voulez-vous dire qu'elle ait jamais fait quelque chose de coupable?
Demanda-t-elle après un silence.
Oh non, le ciel me préserve de jamais dire cela, et cela ne me regarde en rien. D'ailleurs, si elle l'a fait, telle fut l'aimable expression que j'employais, il y a des siècles de cela. C'était dans un autre monde. Mais qu'est-ce qui l'empêcherait de détruire les papiers?
Oh, elle les aime trop.
Même maintenant, quand sa fin peut être si proche.
Peut-être le fera-t-elle quand elle en sera sûre.
Eh bien, Miss Tina, dis-je, c'est justement cela que je voudrais que vous empêchiez.
Mais comment puis-je l'empêcher? Mais ne pouvez-vous pas les prendre?
Ah, et vous les donner?
Ceci résumait la situation à première vue, avec une ironie cinglante. Mais j'étais certain que ce n'était pas son intention.
Non, je veux dire que vous pourriez me les laisser voir et les examiner rapidement.
Ce n'est pas dans mon propre intérêt, et je ne voudrais pas que cela nuise à personne.
C'est tout simplement parce que cela aurait un immense intérêt pour le public, une importance incalculable comme contribution à l'histoire de Jeffrey Osborne.
Elle m'écoutait avec son expression habituelle, comme si je discourais sur des sujets dont on n'aurait jamais entendu parler, et je me sentais l'âme aussi basse qu'un reporter qui pénètre de force dans une maison en deuil. Cette sensation fut justifiée quand elle reprit.
Il y a quelque temps, un monsieur lui a écrit à peu près en ces termes. Lui aussi désirait ses papiers.
Et lui a-t-elle répondu? Demandai-je un peu honteux de n'avoir pas imité la franche conduite de mon ami.
Oui, seulement après qu'il lui eut écrit deux ou trois fois, il l'a beaucoup fâché.
Et qu'en a-t-elle dit ?
Elle a dit qu'il était un animal, répondit catégoriquement Mistina.
Elle a employé cette expression dans sa lettre ?
Oh non, elle me l'a dit à moi. C'est moi qu'elle a chargé de lui répondre.
Et que lui dites-vous ?
Je lui dis qu'il n'existait aucun papier.
Oh, le pauvre garçon, soupirai-je.
Je savais bien qu'il en existait, mais j'ai écrit d'après ses ordres.
Naturellement, vous n'aviez que cela à faire. Mais j'espère que je ne vais pas être traité d'animal.
Cela dépend de ce que vous me demanderez de faire pour vous.
Et ma compagne sourit. Oh, s'il y a seulement l'ombre d'une chance que vous pensiez ainsi de moi, mon affaire est en mauvaise voie. Je ne vous demanderai pas de voler pour moi, ni même de mentir, car vous êtes incapable de mentir, excepté sur le papier. Mais l'important, c'est que vous l'empêchiez de détruire les papiers.
Je n'ai aucune autorité sur elle, dit Mistina. C'est elle qui exerce la sienne sur moi.
Mais elle ne peut l'exercer sur ses bras et ses jambes, n'est-ce pas ? La manière dont elle détruira le plus naturellement ses lettres sera de les brûler. Or, elle ne peut les brûler sans feu. Elle ne peut avoir de feu que si vous lui en procurez.
J'ai toujours fait tout ce qu'elle m'a demandé, plaida ma pauvre amie. Et puis il y a Olympia.
Je fus sur le point de dire qu'Olympia était probablement corruptible, mais je jugeais préférable de ne pas pincer cette corde pour le moment. Je dis simplement que cette faible créature pourrait sans doute être endoctrinée.
Ma tante endoctrine qui elle veut, dit Mistina.
Puis elle se rappela que son congé tirait à sa fin. Il fallait rentrer. Je posai ma main sur son bras à travers la table pour la retenir un instant. Non, ce que je veux de vous est une promesse de m'aider, d'une façon générale.
Mais comment le puis-je ? Demanda-t-elle, songeuse et troublée.
Elle était à demi surprise, à demi effrayée de l'importance que je lui donnais de cet appel à son action propre.
Bien, voici la chose principale. Surveillez soigneusement votre amie et m'avertir à temps, avant qu'elle commette l'affreux sacrilège.
Je ne peux pas la surveiller quand elle me dit de sortir.
C'est très vrai. Et que vous sortez avec moi.
Dieu nous protège. Croyez-vous qu'elle ait fait quelque chose ce soir ?
Je ne sais pas, elle est très rusée.
Bon, vous essayez de me faire peur, demandai-je. La seule réponse de Mistina à cette question, mais elle me suffit, fut de murmurer sur un ton rêveur et presque envieux.
Mais elle les aime. Elle les aime.
Cette réflexion, répétée avec solennité, me combla d'aise. Et pour obtenir davantage de ce baume, je dis « Si elle n'a pas l'intention de détruire avant sa mort les objets dont nous parlons, elle en aura probablement disposé par testament. »«
Par testament ?
N'a-t-elle pas fait un testament en votre faveur ?
Oh, elle a si peu à léguer. C'est pour cela qu'elle tient à l'argent, » dit Mistina.
« Mais oserais-je vous demander, puisque nous sommes sur ce sujet, de quoi vous vivez toutes deux ?»«
D'argent qui vient d'Amérique par les mains d'un monsieur, un notaire, je crois, de New York. » Il nous l'envoie chaque trimestre, oh, ce n'est guère.
Mais n'aura-t-elle pris aucune disposition pour cela ?
Ma compagne hésita, je vis qu'elle rougissait. Oh, je crois que tout est à moi, dit-elle.
Son regard et le ton de ses paroles témoignaient d'un oubli si habituel d'elle-même que je fus sur le point de la trouver charmante. L'instant d'après, elle ajouta.
Mais elle a demandé une fois un avocato,
il y a extrêmement longtemps, et il est venu des gens qui ont signé quelque chose.
Oui, c'était les témoins, probablement. Et on ne vous a pas demandé de signer.
Eh bien alors, raisonnai-je rapidement et plein d'espérance, c'est parce que vous êtes sa légataire. Elle doit vous avoir laissé tous les documents.
Si elle l'a fait, ce doit être avec des conditions bien strictes, répondit Mistina en se levant hâtivement, et le mouvement donnait à ses paroles une certaine apparence de décision.
Elle semblait signifier que le lait serait accompagné de la restriction que les objets légués devraient demeurer cachés à tous les yeux, et que je me trompais grossièrement si je la supposais capable de désobéir à une injonction aussi absolue.
« Oh, bien entendu, vous devez respecter les termes de testament, dis-je. »
Et elle ne prononça rien pour adoucir la rigueur de cette conclusion. Néanmoins, un peu plus tard, juste avant de débarquer à la porte, après un retour effectué dans un silence presque complet, elle me dit brusquement « Je ferai ce que je pourrai pour vous aider. » Je lui en fus très reconnaissant. C'était parfait pour le moment. Mais cela ne m'empêcha pas, pendant l'heure d'insomnie fiévreuse que j'eus cette nuit-là, de me rappeler que j'avais maintenant sa propre affirmation pour fortifier ma conviction que la vieille femme avait plus d'un tour dans son sac.